Vous écoutez un balado de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à 10 000 expérimentations. Ce balado diffusion traite de travaux scientifiques de pointe et des joies de la découverte. Nous nous sommes inspirés de Thomas Edison, qui aurait dit que toutes ses tentatives n'avaient pas été des échecs, mais 10 000 façons de faire qui n'avaient pas bien fonctionné. L'Université de Moncton est un établissement d'enseignement exclusivement de langue française, réparti sur trois campus à Edmundston, Moncton et Sheepagan, au Nouveau-Brunswick. Nous avons eu la chance de faire un brin de jazzette avec la chercheuse Céline Surette, qui y enseigne.
Je suis Céline Surette, je suis professeure au département de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton. Le laboratoire dans lequel je travaille, c'est un laboratoire de chimie analytique et environnementale, où est-ce que nous spécialisons dans les analyses d'éléments traces, donc des métaux, des radionucléides, tout ça qui peut être analysé à l'état élémentaire. Je suis une chercheure qui est très interdisciplinaire, qui va se retrouver un peu partout, et pas seulement dans le laboratoire. Les collaborations sont au cœur de mon approche scientifique. C'est ça qui va faire en sorte qu'on est capable de passer des connaissances à l'action, qu'on répond à des questions qui sont d'intérêt pour les personnes avec qui on travaille. C'est surtout des questions qui vont toucher des enjeux de santé et d'environnement. Donc, ça veut dire travailler avec les communautés au niveau de comprendre leurs besoins, faire des entrevues pour comprendre les enjeux de santé, mais aussi les enjeux sociaux, culturels, économiques qui vont affecter ces communautés-là. Il va aussi avoir un volet où est-ce qu'on va coordonner nos efforts pour pouvoir aller sur le terrain, où est-ce qu'on va prendre des échantillons environnementaux comme des poissons, par exemple, ou des sédiments ou de l'eau.
En 2012, Céline Surette avait reçu du financement de la FCI pour équiper son laboratoire afin d'évaluer des biomarqueurs d'exposition aux métaux et sélectionner des bio-indicateurs de la qualité des écosystèmes aquatiques, dans le but d'améliorer leur santé et celle des êtres humains. C'est une fois que les échantillons sont prélevés que cet équipement prend tout son sens.
Ben, il y a la partie laboratoire où est-ce qu'on ramène les échantillons et qu'on les traite. Donc, on a deux laboratoires. On a un laboratoire où est-ce qu'on fait la préparation des échantillons qui nous arrivent du terrain. Et ensuite, on va passer à notre laboratoire d'analyse, là où sont les équipements que la FCI nous a permis d'acquérir. Donc, on a un ICP-MS. Un ICP-MS, c'est un instrument à plasma à couplage induit qui est couplé à la spectrométrie de masse. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de prendre nos échantillons soit sous la forme gazeuse ou sous la forme liquide et des atomiser complètement, donc des rendre à l'état élémentaire. Et ensuite, une fois que ça se passe dans le plasma, qui est très, très chaud, ces éléments-là vont être amenés dans le spectre de masse où est-ce qu'ils vont être séparés selon un ratio ion-masse pour pouvoir analyser les éléments. Et ça nous permet aussi de faire des analyses isotopiques.
Les isotopes sont des atomes qui possèdent le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. C'est pourquoi les isotopes d'un même élément, hydrogène, oxygène, fluor, hélium, par exemple, vont avoir des propriétés chimiques identiques, mais des propriétés physiques différentes, stables ou radioactives notamment. On effectue donc des analyses isotopiques pour comparer les abondances isotopiques des éléments et leurs variations, naturelles ou anthropiques. Cela permet d'en comprendre les origines et donc, concrètement, ces analyses sont menées dans le cadre de la détection de fraudes alimentaires, de contrôles antidopage, pour mesurer l'âge de vestiges archéologiques ou encore déterminer la provenance du pétrole lorsqu'il y a un déversement suspect. Mais aussi, comme Céline Surette le fait, dans le cadre d'études écologiques ou hydrologiques.
Donc, ça nous a permis vraiment de consolider un peu nos analyses et de vraiment aller chercher l'infrastructure qu'on avait besoin pour développer ce volet-là. Et je parle beaucoup au « nous » parce que je ne suis pas seule. C'est sûr que j'ai mon équipe à moi de recherche avec mes étudiants et mes professionnels de recherche, mais je travaille aussi avec des collègues au département, dont Olivier Clarisse qui utilise l'instrument comme moi. Donc, on est vraiment deux chercheurs qui utilisent cet instrument-là de façon très régulière dans nos recherches et quand d'autres collègues veulent des analyses, on est capable de répondre à leurs besoins. Ça nous permet vraiment d'avoir une belle infrastructure ici en région, à Moncton.
Parmi tous les projets intéressants qu'elle a menés, Céline Surette a analysé l'incidence de la présence du manganèse dans l'eau potable sur le développement intellectuel des enfants.
Ça, c'était un projet que j'ai mené avec ma collègue Maryse Bouchard, qui est à l'Université de Montréal, qui est maintenant à l'INRS Institut Armand Frappier, avec une chaire de recherche, qui est épidémiologue. Donc, elle avait vraiment tout l'aspect épidémiologie du projet. Et nous, ici, on faisait tout l'aspect de collecte de données, d'analyse d'échantillons, développement de biomarqueurs pour le manganèse chez les enfants. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On sait que le manganèse est un élément qui va se retrouver en concentration variable dans les eaux souterraines. C'est vraiment un problème d'eau de puits, d'eau souterraine. Et au Nouveau-Brunswick, 60 % de la population utilise de l'eau souterraine, qui est plus grand que le pourcentage canadien, qui est de 30 % à peu près. Et on sait qu'il y a certaines régions au Nouveau-Brunswick où est-ce que la roche-mère est très riche en manganèse, donc il est possible d'avoir des concentrations élevées en manganèse. Donc, on voulait comprendre un peu toute cette dynamique-là. Ça nous a permis de vraiment valider les biomarqueurs d'exposition. Donc, on était vraiment capable de voir les différences dans les marqueurs qui étaient les cheveux, qui c'est celui qui marche le mieux. Mais on a aussi vérifié la salive et les ongles, qui sont deux autres biomarqueurs qui peuvent nous aider à comprendre l'exposition au manganèse. On peut quand même voir aussi que le manganèse, même à concentration relativement faible, va avoir des impacts sur des indicateurs comme le QI. On mesurait des effets de mémoire, par exemple. Et donc, on pouvait voir, même si c'était très faible, une différence selon les niveaux de manganèse. Quand on a pris toutes les données du Québec et du Nouveau-Brunswick, on a vraiment été capable de proposer au gouvernement canadien des seuils qu'on devrait mettre comme limite. Et donc, depuis cette étude-là, on a maintenant une norme maximale pour le manganèse au niveau canadien. Ces études ont vraiment pu nous aider au niveau des politiques publiques et de la protection de la santé, finalement. Donc, on a réussi à pouvoir mettre une norme, ce qui n'était pas le cas avant. On avait une norme esthétique pour le manganèse parce que ça tache la lessive, les bols de toilette, des choses comme ça. Donc, on n'aime pas ça. Donc, on a tendance à traiter pour le manganèse de façon esthétique, mais on a pu aussi indiquer que c'était important de traiter pour la santé.
Ça ne doit vraiment pas être évident d'obtenir gain de cause avec autant de parties prenantes impliquées dans un enjeu, a fortiori s'il est environnemental.
Pas tous les milieux où est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux qui veulent nécessairement qu'on étudie les problématiques et puis qu'on trouve des solutions. C'est ça, ça fait qu'il peut y avoir toutes sortes de défis au niveau des relations. Il y a des gens qui veulent juste pas qu'on étudie certaines questions. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux qui peuvent être plus politiques, qui peuvent être générateurs de revenus, d'emplois, où est-ce que les différents groupes de personnes peuvent voir le travail qu'on fait comme étant un metteur de bâton dans les roues. On est contre le développement, finalement. Je pense pas qu'on est contre le développement, mais on veut s'assurer que ce développement-là se fasse de façon équitable et viable pour les, pour nos écosystèmes. Donc, c'est sûr que il y a des moments où est-ce que le type de travail que je fais va rencontrer les murs. C'est trop controversé comme sujet. Les gens ont peur qu'on va trouver des choses qui vont limiter un développement particulier. Donc, c'est sûr que les projets qu'on a faits, ça a été des projets où est-ce qu'il fallait vraiment faire attention à comment on parlait de nos résultats, comment on s'associait au groupe de citoyens qui manifestaient parce qu'on voulait garder une certaine indépendance scientifique. Ça fait que naviguer entre notre rôle de scientifique puis le rôle d'activiste, parce qu'on l'est aussi, ça, c'est quelque chose qui demeure très difficile. Puis je suis pas sûre que j'ai encore trouvé exactement comment il faut faire. Il faut continuer à essayer de trouver les façons de naviguer cette complexité.
Céline Surette tire finalement très bien son épingle du jeu en suivant une démarche toute scientifique. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait naître en elle cette passion pour les sciences et la chimie?
J'ai toujours été intéressée par les sciences. Je veux dire, aussi loin que je peux me rappeler, ça a vraiment toujours été quelque chose qui me fascinait. Donc, pour moi, quand j'étais à l'école, je savais que j'allais aller en sciences. Mais quelle science? Bon, ça, c'est toujours un peu plus difficile. À un moment donné, quand j'étais en 11e ou 12e année, il y a une professeure qui enseignait à l'Université de Moncton qui est venue faire une présentation en salle de classe sur la chimie. Je pourrais même pas dire quel élément de sa présentation m'a piqué, mais à ce moment-là, je savais que je voulais aller en chimie. Je me suis inscrite en chimie, puis au début, les questions de chimie nucléaire, la chimie là-dedans et toute la désintégration nucléaire, tout ça, c'est vraiment très fascinant, très intéressant. Mais c'est quand j'ai fait un cours de chimie environnementale, deuxième ou troisième année de bac, que ça a vraiment fait le déclic. Donc, à partir de là, j'ai eu l'occasion de travailler en laboratoire dans des équipes de recherche ici à l'Université de Moncton. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir un peu qu'est-ce que ça voulait dire de travailler dans un laboratoire. Et je pense que c'était quand j'étais en quatrième année de bac, quand j'ai fait mon projet d'initiation à la recherche. J'ai vraiment fait un projet en chimie environnementale, où est-ce qu'on s'intéressait aux concentrations de métaux dans les poissons, dans une communauté autochtone ici au Nouveau-Brunswick, donc à Indian Island, communauté Mi'kmaq. La première fois que j'ai été sur le terrain, moi, je suis pas une pêcheuse, j'avais jamais touché des poissons vivants. J'étais avec un biologiste de pêche océan qui nous accompagnait. Et vraiment, toute cette initiation-là, ça a été vraiment un moment qui qui m'a fait sortir de ma zone de confort, qui m'a fait comprendre un peu plus ce qui se passait au niveau de nos écosystèmes. Donc, on dirait que c'est vraiment toute la combinaison de ces éléments-là, des personnes aussi qui étaient passionnées, hein, qui m'ont accompagnée à travers mes études, qui ont contribué à continuer à me donner la piqûre.
Est-ce que l'avenir était aussi clair que de l'eau de roche, dont elle allait plus tard effectuer l'analyse?
Je pense pas qu'on sait qu'en Acadie, on est encore une population qui est jeune par rapport à l'éducation universitaire. Moi, je suis choyée parce que je viens d'une famille qui croyait beaucoup dans l'éducation. Mes parents ont tous les deux une éducation universitaire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes de ma génération en Acadie. Mais c'était beaucoup des professions libérales. Donc, être médecin, devenir avocat, enseignant. Donc, toutes des formations où est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir comme profession à la fin de ta formation. Tu fais un bac en chimie, tu deviens chimiste, oui, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça fait que ça ouvre tellement de portes que c'est difficile, je pense, pour les jeunes de vraiment savoir qu'est-ce que tu vas devenir. Puis la question de devenir chercheur, ça faisait pas partie du milieu dans lequel j'ai grandi. C'était pas, on parlait pas du métier de chercheur, on parlait d'autres types de métiers. Ça fait que je pense que c'est à travers toutes ces expériences-là dans mon bac que j'ai pu découvrir que ça existait de juste passer ta vie à poser des questions et à trouver des façons d'y répondre. Et ça, ben, c'est génial de pouvoir faire ça parce que ça répond certainement à mon besoin de curiosité puis de trouver des. J'ai toujours été très curieuse, donc être chercheuse, c'est quelque chose qui me va bien.
Ceci dit, pas question de mettre Céline Surette dans une seule case. Ni celle de chimiste, ni celle de chercheuse, ni aucune autre.
J'ai eu l'occasion d'avoir un directeur d'initiation à la recherche qui a tout de suite vu que c'était pas juste la chimie qui m'intéressait, que j'ai cette perspective interdisciplinaire plus ouverte. Et donc, il m'a ouvert les yeux vers les programmes d'études environnementales. Et donc, d'un bac en chimie, je suis passée à une maîtrise en études de l'environnement. Au niveau du doctorat, j'ai pu commencer à intégrer les approches écosystémiques de la santé avec Marc Lucotte et il y avait aussi Donna Mergler. Marc Lucotte provient des sciences naturelles, de la biogéochimie et qui avait vraiment cette sensibilité-là de faire ces liens-là vers la santé. Et Donna Mergler, elle, était épidémiologue qui a vraiment travaillé très fort à développer les approches écosystémiques de la santé, donc une pionnière de ces approches-là dans les années 90-2000.
En quoi cette étape est-elle révélatrice? Céline Surette en tire-t-elle encore les leçons aujourd'hui?
Moi, j'avais l'occasion d'être plongée dans ce milieu-là avec des personnes qui avaient ces idées-là, qui amenaient la science ailleurs, qui amenaient vraiment la question d'interdisciplinarité ailleurs aussi. J'ai été formée de façon interdisciplinaire. Ça fait que pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est presque deuxième nature. Je considère, en fait, souvent, si on me demande c'est quoi mon expertise, c'est une question que j'ai de la difficulté à répondre parce que je touche un peu à tout, je ne vais pas avoir la profondeur que d'autres de mes collègues en chimie vont avoir, par exemple, avec les analyses de métaux. Je suis capable d'en faire, je suis capable de les analyser, mais je n'ai pas la même profondeur dans ma compréhension de tout ça. Par contre, parce que j'ai été formée de façon interdisciplinaire, je considère que mon expertise est celle d'être capable de faire des liens. Et donc de pouvoir aider les autres à faire les liens.
Ce décloisonnement disciplinaire. Il semble donc tout naturel qu'elle l'enseigne à ses étudiantes et à ses étudiants, non?
Je prends la personne là où elle est. C'est ça qui est le plus important dans l'encadrement qu'on donne à notre équipe, c'est d'être capable de voir où la personne est, puis essayer de l'amener juste un petit peu plus loin. Mais je crois à l'interdisciplinarité. Ça fait que c'est sûr que quand une personne arrive dans mon bureau puis veut travailler avec moi, je leur ouvre les yeux à ce qui est plus large que juste une analyse en laboratoire. Donc, j'aide mes personnes étudiantes à vraiment naviguer dans cette complexité-là qui nourrit nos systèmes. Si on travaille en environnement, on fait face à des problématiques qui sont complexes, qui sont pas faciles à résoudre. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, c'est pas toutes les solutions qui sont bonnes. Une solution peut amener à d'autres problèmes et qui sont pas anticipés au départ. Donc, c'est important d'avoir les yeux les plus ouverts possibles pour être capable de voir et anticiper le plus possible les conséquences inattendues de ce qu'on va proposer comme solution. Donc, en tant que mentor, j'essaie d'amener mon équipe à penser de cette façon-là, d'avoir une réflexion grand portrait pour pouvoir nourrir leurs questions spécifiques.
Et la meilleure technique pour garder les yeux ouverts, quelle est-elle?
Les interactions qu'on a avec les milieux dans lesquels on travaille, donc les communautés, les gouvernements, tout ça va être important parce que c'est là où est-ce qu'on peut saisir le concret des enjeux qu'on a besoin de résoudre. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est quelque chose qui se fait en bâtissant notre réseau. Tu as besoin de bâtir ton réseau avant qu'on commence à te demander des questions. Une des choses que le Nouveau-Brunswick fait très bien, c'est tout le réseautage des groupes citoyens. Donc, notamment avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, ici, qui est tant qu'à moi une organisation qui développe vraiment des modèles de collaboration et qui permet de travailler entre les groupes environnementaux, mais avec le gouvernement, avec les chercheurs. Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est petite en taille, petite en nombre d'humains qui y habitent aussi. Donc, on est un genre de microcosme de tout ce qu'on est capable de faire au niveau d'interaction avec les groupes citoyens et en recherche partenariale. Fait que je pense qu'on a vraiment cette force-là au Nouveau-Brunswick de pouvoir faire ce travail-là. Et les universités, ben, on est proche de notre terrain. L'Université de Moncton est extrêmement proche de sa communauté. C'est l'Université de l'Acadie. Et on est très, très proche de nos communautés dans tous les domaines.
Les étudiantes et les étudiants de Céline Surette vont donc devenir d'habiles réseauteurs, avec un bon ancrage dans leur milieu. Mais pas que.
La qualité essentielle qu'ils vont avoir à la fin, c'est d'être capable de faire des liens et de parler avec les gens des groupes, des communautés, du gouvernement et aussi la pensée critique. C'est ça qu'on apporte comme scientifique dans le milieu. C'est vraiment d'être capable de faire la différence entre des données qui sont des bonnes données et des données qui ne sont pas des bonnes données. Fait que je pense que ça, c'est un rôle important qu'on a à jouer. La neutralité scientifique, ça n'existe pas. Et ça n'empêche pas d'avoir une pensée critique, au contraire. La pensée critique, elle est essentielle justement parce qu'on n'est pas neutre. Et donc, il faut être capable de savoir qu'est-ce qu'est la subjectivité dans notre approche. Et ça, ça prend de la pensée critique.
Vous avez écouté un balado produit par la Fondation canadienne pour l'innovation. La FCI est un organisme à but non lucratif qui verse des fonds aux universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada pour qu'ils investissent dans l'infrastructure de recherche. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web innovation.ca. Je m'appelle Émilie Delattre. Merci d'avoir été à l'écoute. À tout bientôt.